Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous et à chacun. Nous ferons le point dans ce journal sur la 13e journée de contestation dite des Gilets jaunes. Avec de supposés représentants en désaccord sur l'organisation des manifestations, nous serons en ligne dans un instant avec Martin Delacoux de France Bleu Azur, qui suit des gilets jaunes qui visent, eux, la frontière franco-italienne. Le changement doit être politique. L'une des phrases prononcées hier soir à Jussieu, où étaient réunis des centaines d'étudiants qui ont appelé à des actes de désobéissance civile à compter du 15 février prochain, des grèves scolaires pour la défense de l'environnement, précision de Lucas Scaltritti. Nous reviendrons également sur les 7 condamnations à la prison à vie dans le procès des attentats du Bardo et de Sousse, correspondance de Tunis de Maureen Mercier. Et puis la Bulle Écho refermera cette édition. Marie Viennot s'est intéressée ce samedi à la lutte contre la fraude au travail détaché. Une enseigne emblématique de la mondialisation, des accès à des sites économiques névralgiques, la 13e mobilisation des Gilets jaunes couvre tout le territoire avec des événements en cours et d'autres en préparation. On va y revenir. Et un événement qui résonne avec la crise diplomatique franco-italienne. Bonjour Martin Delacoux.
Bonjour.
Martin, vous êtes à la frontière, enfin non loin de la frontière franco-italienne, à hauteur de Vintimille, où des dizaines de Gilets jaunes ont choisi de se rendre, non sans difficulté.
Oui, exactement. Ce rassemblement inquiète visiblement les autorités qui ont déployé de gros moyens. Les cartes d'identité sont systématiquement fouillées de tous les automobilistes. Les cartes d'identité sont prises en photo donc par les policiers. Ensuite, le permis de conduire et la carte grise sont contrôlés et le coffre des voitures est ouvert. Certains policiers sont même allés jusqu'à contrôler le contenu de bouteilles d'eau en plastique. Les gilets jaunes ont donc quand même essayé de passer à travers les mailles du filet en rangeant leurs gilets. Par conséquent, la circulation est très compliquée dans le secteur de Nice-Ouest notamment. Plusieurs accès à l'autoroute qui permet d'accéder à la frontière sont également fermés. C'est un déploiement de force inédit ici à Nice et dans les Alpes-Maritimes où les manifestations des Gilets jaunes se sont déroulées sans heure majeure depuis le début de la mobilisation. Ce qui inquiète les autorités, c'est en fait que des groupes de Gilets jaunes de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont appelé à converger à Nice puis à la frontière. L'une des figures médiatiques du mouvement est également à Nice depuis hier, Maxime Nicole, aussi connu sous le nom de Flyrider et dont les interventions sur les réseaux sociaux sont très regardées. Et puis la frontière est évidemment aussi un point stratégique. Les gilets jaunes du département l'ont bien compris. Ils ont déjà mené 2 opérations à la frontière depuis le début du mouvement pour bloquer les camions en provenance de l'Italie, pour marquer les esprits aussi. Tous ces rassemblements à la frontière ont été très suivis par la presse régionale. Les gilets jaunes français aimeraient également s'allier avec les gilets jaunes italiens. Une 20aine de gilets jaunes des 2 pays se sont d'ailleurs retrouvés hier à San Remo.
Merci à vous, Martin Delacoux de France Bleu Azur. Bonjour Mathilde Mélin.
Bonjour.
Mathilde, avec vous, tentons de nommer ce qui peut caractériser cette 13e mobilisation.
Le mouvement semble se disperser, alors que la semaine dernière, les leaders autoproclamés des Gilets jaunes s'étaient retrouvés à Paris pour la marche des blessés. Cette semaine, c'est chacun de son côté. Éric Drouet sera à Paris dans l'après-midi, où il a appelé à des manifestations non déclarées auprès de la préfecture. Selon lui, déclarer des manifestations voudrait dire se rendre complice des violences policières. On le disait à l'instant, Maxime Nicole, alias Flyrider, partira lui de Nice pour rejoindre la frontière italienne et appeler les Italiens à enfiler un gilet jaune. Côté blocage, ils ont déjà commencé, notamment en Normandie, avec le port maritime de Cherbourg et un centre commercial à Tourville-la-Rivière, où l'atmosphère s'est d'ailleurs tendue en milieu de matinée quand les CRS ont tenté de disperser les 70 gilets jaunes présents. D'autres blocages sont en cours, notamment à Pau et dans l'Indre. À Paris, les manifestants sont pour le moment bloqués sur les Champs-Élysées par les forces de l'ordre. Le cortège n'est censé se mettre en mouvement qu'à midi et devrait passer devant des lieux de pouvoir comme l'Assemblée nationale et le siège du MEDEF. Si tout se passe pour l'instant dans le calme, la situation pourrait se tendre quand apparaîtront les fameuses manifestations non déclarées qu'on attend dans l'après-midi dans plusieurs grandes villes comme Paris, Toulouse et Bordeaux.
Merci à vous Mathilde Mélin. Il y a 3 semaines, des dizaines de milliers d'adolescents ont séché les cours un vendredi pour le climat en Suisse et en Allemagne principalement, mais aussi un peu partout dans le monde, en France y compris. Mais le mouvement a alors été peu suivi. Bonjour Lucas Scaltriti.
Bonjour.
Lucas, hier soir sur le campus de Jussieu à Paris, plus de 300 jeunes ont voté le lancement d'un mouvement de grève scolaire pour l'environnement en France.
Et oui, et tous les vendredis à partir de la semaine prochaine, les salles de classe vont donc se vider, les élèves feront grève pour le climat. Un nouveau départ peut-être donc sur le plan national, alors qu'à l'étranger, vous l'avez dit, le mouvement se structure depuis quelques mois. Tous les vendredis ou les jeudis, pour les Belges, des étudiants sèchent les cours en Australie, aux États-Unis, aux Pays-Bas. Des actions de désobéissance civile pour défendre l'écologie au sens large du terme et demander aux États d'agir vite et concrètement pour le climat. Il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur de ce mouvement, mais il est intéressant dans sa construction, un peu à l'image des marches pour le climat. C'est un mouvement qui part d'en bas, des citoyens, ici des plus jeunes, pour tenter d'influer sur le haut de la pyramide, les politiques. Cette idée de grève scolaire a été initiée par une Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Elle a été la première à manifester toute seule devant le Parlement de son pays en septembre dernier. Depuis, elle est devenue une figure du militantisme écologique. Elle s'est exprimée à la COP24 il y a deux mois devant de nombreux chefs d'État.
J'ai appris que tu n'es jamais trop petit pour faire la différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde, simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions. Mais pour ça, nous devons parler clairement. Même si ça peut être inconfortable, vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez à nous, les enfants.
Et ce fardeau sera encore porté le 15 mars prochain. Une grève scolaire mondiale est organisée.
Merci à vous, Lucas Scaltriti. L'incendiaire présumé de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, a été mis en examen la nuit dernière et placé en détention provisoire. Le parquet a ouvert une information judiciaire, notamment pour destruction par incendie ayant entraîné la mort à l'encontre de cette femme au lourd antécédents psychiatriques, 13 séjours en hôpital psychiatrique ces 10 dernières années. L'incendie a fait 10 morts et des dizaines de blessés dans la nuit de lundi à mardi. Le parquet de Brest était saisi hier de l'enquête sur la tentative d'incendie constatée au domicile du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, à Motreff dans le Finistère. La gendarmerie nationale a découvert sur place une couverture, un résidu de pneumatique et une torche artisanale imbibée de carburant. L'origine criminelle ne semble pas faire de doute selon la présidence du Palais Bourbon. 4 ans après les faits, la justice tunisienne a condamné 7 accusés à la prison à vie dans les procès des attentats du Bardo et de Sousse. Au total, 59 touristes ont été tués dans ces actes terroristes, parmi lesquels 4 Français. La justice tunisienne a lié ces deux affaires. Le parquet a fait appel ce matin dans ces deux dossiers. Maureen Mercier, vous avez suivi pour nous une dizaine d'audiences réparties sur un an et demi. Les dernières plaidoiries ont lieu hier et toute la nuit, la cour a délibéré.
La soudaineté du verdict a surpris les avocats des victimes européennes. La majorité des audiences a porté sur des questions de forme plutôt que sur le fond. Hier encore, lors de la dernière journée du procès, la plupart des prévenus clamaient leur innocence. Leurs avocats évoquaient des premiers aveux faits sous la torture. Pour certains, l'accusation a apporté comme seule pièce à conviction le fait d'être en contact avec d'autres suspects via une application de messagerie. Parmi les dizaines de prévenus, quelques rares ont plaidé coupables, mais généralement pas pour les attentats, comme ce jeune Tunisien qui a reconnu être passé par un camp d'entraînement de Daesh en Libye avec l'objectif d'aller ensuite se battre en Syrie. Son avocate, Boussel Mimounia.
J'ai plaidé coupable pour mon client dans le sens où il a été en Libye, qu'il voulait aller en Syrie, qu'il a dépassé les frontières et tout. J'ai plaidé coupable, je ne peux pas dire non. Mais j'ai plaidé non coupable dans ce qui concerne tout ce qui est homicide aux préparations, aux deux opérations parce qu'il a refusé de faire des opérations terroristes en Tunisie.
L'un des rares prévenus à avoir reconnu sa participation dans la préparation des attentats est un ouvrier, la trentaine. L'homme a dessiné des plans du musée du Bardo pour organiser l'attaque. La justice a donc reconnu dans son verdict la légèreté de l'accusation pour une partie des prévenus. Grand absent du procès, un certain Chemseddine, considéré par les enquêteurs corps comme le cerveau des deux attentats. Il serait en fuite, selon les autorités tunisiennes.
Le bras de fer entre Nicolas Maduro et Juan Guaido, respectivement président sortant et président autoproclamé du Venezuela, est encore et toujours rythmé par deux enjeux, l'accès au pays de convois humanitaires et les menaces d'une intervention militaire américaine. À ce dernier chapitre, pas plus tard qu'hier soir, un haut responsable de la Maison-Blanche faisait état de contacts directs entre l'état-major US et des membres de l'armée vénézuélienne. De l'art de distiller ce qui s'apparenterait à des informations qui viennent entrechoquer les paroles officielles de ces derniers jours. À Washington, Grégory Phillips.
Dans son discours sur l'état de l'Union mardi, Donald Trump avait dit qu'il ferait tout pour soutenir le peuple du Venezuela dans sa quête de liberté. Deux jours plus tôt, interrogé sur une éventuelle intervention des États-Unis à Caracas, il avait affirmé que toutes les options étaient sur la table, y compris militaires. Cette fois, c'est donc Juan Guaido lui-même qui semble envisager cette possibilité. Dans un entretien accordé à l'agence France Presse, l'opposant numéro 1, Nicolas Maduro, dit que pour sauver des vies humaines, les Vénézuéliens feront tout ce qui est nécessaire, tout en gardant leur souveraineté, mais à demi-mot, ils semblent prêts à autoriser cette intervention militaire étrangère. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent d'acheminer de l'aide humanitaire à la frontière, les camions sont bloqués en Colombie et Maduro dénonce une mise en scène de la part des Américains. Le chef de l'État sortant refuse de laisser entrer cette aide dans le pays, jugeant que ce serait un prélude à l'arrivée des militaires US.
Grégory Phillips à Washington.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et cette semaine, Marie, vous revenez sur le rapport annuel de la Cour des comptes qui s'est intéressé cette année à la lutte contre la fraude au travail détaché.
Oh,
il a 25 ans et travaille sur les chantiers de Saint-Nazaire. Salarié détaché, il consulte un dépliant qui lui explique ses droits en russe. Il est ukrainien.
Ça va.
Yeah, ça va.
Le salaire, ça va. Les horaires, non. La durée du détachement, non plus. Elle est limitée à 2 ans. Lui travaille ici depuis 3 ans. C'est un cas typique de fraude au détachement. Si un inspecteur du travail le contrôlait, il constaterait que l'entreprise polonaise qu'il a détachée ici a une activité continue sur le territoire français, qu'elle doit donc être immatriculée en France et payer les cotisations sociales de ce salarié en France et non en Pologne. Ensuite, ce serait à l'URSSAF de recouvrer les cotisations sociales non perçues auprès de l'entreprise polonaise. Détecter la fraude n'est pas aisé, elle se cache forcément. Mais une fois détectée, est-elle sanctionnée? Eh bien non. Très peu, trop peu, constate la Cour des comptes qui s'est intéressée dans son rapport annuel à l'efficacité de la lutte contre la fraude au travail détaché. Il y a 500 000 salariés détachés en France et contrairement aux idées reçues, nous dit la Cour des comptes, un travailleur détaché n'est pas compétitif au niveau du SMIC. Vu les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, faire venir un salarié de Pologne, du Portugal ou d'Espagne revient plus cher que d'embaucher localement. Mais c'est intéressant quand la main-d'œuvre manque en France ou si on ne respecte pas les règles, autrement dit, si on fraude. Or aujourd'hui, 20 ans après les premières directives sur le sujet, la fraude au détachement est devenue un marché en Europe. Un marché florissant car il comporte peu de risques. Il faut d'abord débusquer la fraude, ce qui n'est pas simple quand l'entreprise d'intérim immatriculée en Irlande mais faisant travailler des Bulgares en France n'est qu'une boîte aux lettres et qu'elle pourra renaître à Chypre sous un autre nom dès qu'elle aura été inquiétée. Il faut ensuite faire appliquer les sanctions prévues dans les lois. Or, la Cour des comptes relève que les parquets et les tribunaux sont débordés par l'afflux des procédures relevant du travail détaché et qu'ils admettent leur difficulté à poursuivre les personnes physiques et morales situées à l'étranger. D'où un très grand nombre d'affaires classées sans suite. Des peines de prison sont prévues, mais comme le dit Raoul Brier, auteur du rapport sur le travail détaché, elles sont...
Faible.
Mais combien ?
Oh, c'est très faible.
Si faible donc que la Cour des comptes, qui sait tout compter, ne sait pas les chiffrer. Elle donne en revanche un chiffre très éclairant, 0,5%. 0,5%, c'est le taux de recouvrement des fraudes sociales liées au travail détaché. Pour 100 euros de fraude constatée, et ça n'est pas simple, 50 centimes récupérés. Pas très efficace, pas très efficient, pas très dissuasif en résumé. Vous pensez que l'Europe fiscale a des ratés ? Sachez que l'Europe sociale est en jachère. Pour la fiscalité, une directive rend bientôt obligatoire l'échange automatique d'informations fiscales et les pays européens sont forcés de coopérer. Pour les questions sociales, les infractions au Code du travail, la coopération dépend d'accords bilatéraux. Le droit lui-même évolue au rythme des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. On est dans un flou total, confesse un inspecteur du travail. Le ministère nous met la pression pour qu'on contrôle le détachement, mais cela nous détourne d'autres infractions. qui comptera le temps perdu à constater des fraudes complexes ne donnant lieu à aucune poursuite. Plus qu'une question d'efficience ou d'efficacité, c'est une question d'effectivité du droit, de justice sociale, rendue caduque par une Europe inachevée. Consciente des critiques, à quelques mois des élections, la Commission européenne prévoit donc la création prochaine d'une autorité européenne du travail, chargée notamment de coordonner les enquêtes. Tous les États membres ont dit oui à cette idée. Le signe que l'Europe sociale avance, pas sûr, il est prévu que cette instance n'ait aucun pouvoir contraignant.
Merci à vous, Marie Viennot. Avant de refermer le journal, la disparition de Tommy Ungerer, peintre, dessinateur, illustrateur et auteur français. On peut parler de ses livres pour enfants, Les Trois Brigands, Jean de la Lune ou encore cette affiche célèbre contre la ségrégation raciale, Black Power, White Power. Il avait 87 ans. Les très grandes lignes météo de ce samedi après-midi, temps très nuageux avec des pluies de plus en plus éparses entre le nord de l'Aquitaine, le massif central, le Jura et le nord de Rhône-Alpes. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili à la technique, Ludovic Auger.